voix nue. Cette semaine, Johanna Bedeau rencontre Emmanuel Laborie. Ce soir, la révolte.
On vous connaît comme comédienne, metteur en scène, directrice de l'International Visual Théâtre, mais aussi comme fervente défenseur de la langue des signes, pour faire reconnaître cette langue comme une langue à part entière. Sourde de naissance, vous ne cherchez pas à être protégée à tout prix et vous refusez d'être considérée comme une handicapée. Vous travaillez sans relâche pour montrer notamment par la culture que les sourds forment une vraie communauté avec ses difficultés d'être et d'exister face au monde des entendants. Les entendants sont porteurs de leur culture, les sourds sont porteurs de leur propre culture également. Dans une société gouvernée par le son et la parole, vous cherchez à montrer que l'on peut s'organiser différemment. Bonsoir Emmanuel Laborie.
Bonsoir.
Au désarroi de votre adolescence s'ajoute la révolte de voir nier l'identité des sourds. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui provoque votre révolte à l'âge de 13-14 ans ?
Oh, je ne crois pas que ça vienne de la surdité. Je pense que c'est tout simplement la période de l'adolescence, parce que j'avais des changements dans mon corps, changements hormonaux, donc un grand bouleversement. Et comme pour tous les adolescents, donc c'est vrai qu'au fond de moi, je me posais plein de questions face au monde. Je m'interrogeais, je me demandais toujours comment trouver ma place. C'est toujours un âge qui est un peu charnière. On quitte l'enfance pour entrer dans le monde des adultes, mais on ne l'est pas encore. Donc on est vraiment dans ce moment qui est très délicat. Et moi, j'étais à fond dedans, quoi. Voilà, tout simplement. Il y en a d'autres qui vont être, qui vont s'arranger, qui vont trouver leur compte. Moi, non. Moi, je suis rentrée complètement dedans. Et puis, face aux politiques, face aux choix, à la norme, c'est une période où je n'en pouvais plus de tout ça. Je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, la norme ? C'est quoi, cette norme ? Je m'interrogeais. Je disais, donc moi, je ne suis pas normale. Donc, est-ce que vous êtes normaux ? Tu vois ? Moi, je me disais que chacun a sa particularité, de toutes les manières. Donc, essayer de ressembler aux autres, d'être tous identiques, non, ça ne m'intéressait pas. Moi, j'avais plein de questions au fond de moi. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'injustice. C'est une période où j'étais vraiment en pleine révolution, oui, tout simplement.
Oui, c'est pas lié directement à la surdité, mais quand même, vous avez besoin à ce moment-là de revendiquer votre différence.
Oui, bien sûr. Je ne peux pas retirer ma surdité, ça fait partie de moi. Je suis une femme, hein, ça fait partie de moi également. Très souvent, on me pose la question, oui, mais c'est à cause de ci ou à cause de ça. Je dis, non, c'est un tout, c'est en moi, c'est en moi et depuis toujours.
Il y a cet événement très marquant au moment de votre adolescence avec la police où vous êtes un peu en bande. Et après une altercation dans le RER, vous vous retrouvez avec votre copine dans un commissariat. Vous ne pouvez pas appeler à l'aide à ce moment-là. Vous êtes privé de parole là, à ce moment-là, privé de droit. J'imagine que ça doit faire écho avec le temps de la solitude quand on peut pas communiquer. Le temps justement où le monde des entendants était justement, comme vous disiez tout à hier, un moment, enfin une somme d'incompréhension, un mystère immense. Comment vous réagissez à ce moment-là ?
Oh. C'est comme si tout s'effondrait. J'étais naïve encore à cet âge-là, hein. Je pensais que les policiers seraient gentils, qu'ils étaient là pour nous sauver, qu'ils étaient là pour protéger et sauver les gens. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai essayé de faire un pont parce qu'il y en a qui étaient incapables de communiquer avec la policier. Moi je me dis que je pouvais, ça a commencé correctement, mais après j'ai été complètement prise au piège, j'étais placée en garde à vue. Enfin bon, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je disais aux policiers, prévenez mes parents, ils me l'ont refusé systématiquement. Comme si j'étais vraiment un bandit, comme si... Et là, je me suis retrouvée... Comment dire ? Je sais que En fait, je vois la situation qu'il y a dans les banlieues, par exemple. À partir du moment où la personne est noire ou arabe, il y a beaucoup de problèmes avec la police. Effectivement, il y a une oppression. Il y a l'abus vis-à-vis d'une situation de faiblesse. Je sais qu'il ne faut jamais généraliser. Tous les policiers ne sont pas comme ça. Mais là, moi, je me suis retrouvée dans une situation où d'un seul coup, ça devenait évident. Il y avait vraiment un manque de formation chez eux, manque d'ouverture de leur part, manque d'adaptation de leur part. Hein. Et ils ont profité de leur pouvoir jusqu'à vraiment m'opprimer. Donc, et ça, j'ai trouvé ça totalement anormal.
Pour une histoire anecdotique.
On faisait une fête. Et c'était l'après-midi, hein, on était des jeunes, hein, et il était à peu près 18h, il fallait rentrer chez soi, et moi j'étais avec un copain qui avait bien bu quand même, et il était plus âgé lui. Hein. Et puis il déconnait dans le métro, vous savez, les petites publicités, mais toutes petites, il a arraché une affiche. Et puis dans le métro, il y avait une vieille dame qui a eu très peur, enfin j'imagine qu'elle a eu peur de voir ces jeunes qui gesticulent comme ça en faisant des gestes et tout ça. Elle pensait que c'était des actes de violence, or on était juste en train de discuter entre nous. Et elle a eu très peur, elle a tiré le signal d'alarme, donc elle a bloqué le métro. Donc il y a eu l'intervention du contrôleur, et là mon copain a commencé à rouspéter, puis ça a été, le ton est monté, moi j'ai essayé d'être médiatrice, donc ils ont appelé la police en renfort, donc moi j'ai accompagné ce copain et j'étais donc avec une copine, nous ça allait bien toutes les deux, on y était pour aider, et puis on s'est retrouvés au commissariat jusqu'à ce qu'on se retrouve après en prison quoi. Donc tout ça pour dire que cet événement m'a fait réfléchir, je me suis vraiment posé des tas de questions. Parce que vous savez, au niveau de la justice, peut-être qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, mais en justice, demander la présence d'un interprète, c'est récent. C'est très récent que ça nous soit permis d'avoir un interprète. Avant, non, ça n'était pas possible, il fallait que l'on se débrouille. Et ça, au niveau de l'organisation de la justice, de la police, etc., c'est vraiment une grosse structure. Hein. Elle représente quand même l'État, bien sûr, en plus, cette structure. Et ça veut dire que si l'État ne prend pas en considération une situation, eh ben, les administrations n'en prendront pas compte, bien sûr. Alors, lorsque cet événement est arrivé, lorsque moi je l'ai vécu, oui, effectivement, ça m'a un petit peu fracturé. Mon regard naïf de la vie en rose était complètement cassé. Ça peut être un moment où j'ai peut-être vieilli d'un coup. J'ai l'impression d'avoir fait un saut dans le temps. Pourquoi ça m'est arrivé à moi ?
Mais alors, vous êtes quand même Emmanuel Laborie, vous réagissez à temps, si je peux dire, et vous choisissez de vous battre quand même assez tôt dans votre vie. Vous participez à des manifestations pour la reconnaissance de la langue des signes. Vous voulez assez tôt, encore une fois, militante. Et comme les sourds n'ont pas d'informations sur le sida, vous vous engagez au sein de l'association AIDS.
Oui, au début, bon maintenant je ne le fais plus, mais je l'ai fait au début effectivement lors de la création, c'était avec Bruno Moncel qui a créé ce premier groupe. Il a été le premier à s'engager justement pour la prévention contre le sida, donc à AIDS. Et lui, ce qu'il voyait, c'est qu'il fallait que les femmes aussi fassent partie de ce mouvement. Parce que, bien sûr, la prévention, il faut aussi la faire auprès des femmes. Et puis, il se disait que peut-être les femmes pouvaient le faire mieux que les hommes. Donc, c'était moi et Claire Garguier. Nous avons été les toutes premières filles à faire partie de ce groupe à AIDS. Alors là, c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience aussi que il n'y avait rien en prévention, que c'était terrible, que cette situation, que toutes les informations en fait n'étaient absolument pas du tout accessibles aux sourds, hein, et que les sourds eux aussi pouvaient attraper le sida. Donc ça m'a permis aussi de réfléchir à comment expliquer, comment faire de la prévention en langue des signes, parce que c'était une nouvelle maladie. Et vous savez, il y a certains logos, des symboles, et je pense notamment au symbole, enfin le HIV. Donc c'est une sorte de rond jaune avec des pics là, hein, vraiment. Et donc ça fait penser au soleil. Mais erreur dans la compréhension de l'information. Donc la prévention, c'était vraiment quelque chose d'important. Il fallait aussi que les sourds prennent conscience que s'ils n'étaient pas sûrs de leur comportement, etc., il fallait qu'ils aillent faire des prises de sang et tout. Il n'y avait pas d'accessibilité, il n'y avait pas de permanence dans les hôpitaux, il n'y avait pas d'interprète. Maintenant, tout ça existe à la Salpêtrière, par exemple. Il y a un pôle accueil LSF. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Dire que les sourds, quand ils allaient à l'hôpital, c'était avec quelqu'un de leur famille, les parents. Apprendre sa séropositivité avec les parents. Donc c'est les parents qui transmettent cette information à l'enfant. C'est toute cette prise de conscience que j'ai eue.
Et ça, on parle d'il y a 30 ans. 25, 30 ans.
Oui. Et puis, ce dont je me rappelle, hein, c'est un événement. Vous savez, il y avait le site d'action. Donc, c'était une soirée qui était organisée avec des invités relativement célèbres, etc. Et moi, j'ai fait partie de cette émission. Ça me faisait vraiment suer. Et puis, la prévention, comment fallait-il faire? Comment est-ce qu'il fallait? Enfin, rendre tout accessible pour les sourds, etc. Je me posais vraiment des questions. Et puis, justement, donc, en fait, tout le monde a passé son message lors de cette émission. Il y avait un jeune comédien avant moi. Puis, d'un seul coup, ça a été moi qui ai eu la parole. Donc, j'ai demandé à l'interprète de ne plus traduire. Et moi, j'ai pris la parole en langue des signes. Mais j'ai même pas pris une minute de parole. Mais j'ai vu le public a commencé à être hyper angoissé, excité, en se disant « Mais on comprend rien, qu'est-ce qui se passe ?» Et il commençait à s'agacer. Et même l'animateur de la soirée, qui était hyper inquiet, en se disant « Lolo, qu'est-ce qui se passe ?» Donc j'ai demandé à l'interprète de reprendre sa traduction. Et je dis « Vous avez vu, en rien de temps, moins d'une minute, vous avez tous été complètement flippés. Et ben nous, les sourds, c'est ce qu'on vit tous les jours, au quotidien. Voilà, là, vous avez juste pris un peu notre place, une minute. Alors s'il vous plaît. Hein, nous aussi, on est concernés, nous sommes des êtres vivants, nous vivons ensemble, nous ne vivons pas à part de vous, donc pensez à nous également. » Et j'étais très contente de ça. Voilà.
En fait, à ce moment-là, ce qui vous dérange, c'est que la société vous rende si dépendant des entendants. C'est vraiment pas la question de la surdité, c'est qu'on est dépendant des entendants.
Oui, c'est, comment dirais-je, c'est une question d'autonomie. Pour moi, c'est important, l'autonomie. Et je me rappelle une période très forte, c'était avec le téléphone. Pendant très, très longtemps, nous, les sourds, nous avons été complètement bloqués à cause de ce téléphone. Embauche impossible parce que nous ne pouvions pas répondre au téléphone, ne serait-ce que d'appeler nous-mêmes, passer un coup de fil, appeler des amis, ou tout ça. Impossible pour nous. Le téléphone nous handicapait complètement. Obligé de faire appel à quelqu'un de ma famille pour téléphoner pour moi. Mais j'ai jamais vu ça. J'appelais, je demandais à ma sœur, elle était toujours mon relais. Oui, ma sœur, hein. Oui, qui est ma petite sœur, qui s'appelle Marie. Elle m'a super aidée, elle a été géniale et tout ça. Mais elle avait, c'était pas son rôle, non, quand même. Alors, après, est arrivé le Minitel. Une révolution pour tous les sourds, mais c'était super. Et là, maintenant, c'est le téléphone portable. Bah oui, bien sûr. Les portables, c'est génial avec la webcam, les pièces jointes, on peut se faire des messages directs en langue des signes, etc. C'est hyper chouette, adapté, parfait. Bien sûr. Après, il y a des entreprises, si on veut les appeler, par exemple Pôle emploi. Si on veut appeler Pôle emploi, c'est impossible. Là, voilà, il faut y se déplacer.
Pôle emploi ?
Bah oui. Alors bien sûr, on peut envoyer des mails. Ça commence à rentrer dans les mœurs. Mais même moi, lorsque je veux prendre un rendez-vous chez mon médecin, je parle de mon médecin. Donc, j'ai rencontré des médecins qui ont refusé de me donner leur numéro de portable. J'ai dit, mais c'est pas pour vous harceler pendant la nuit, hein. Je veux juste avoir votre numéro de portable pour vous envoyer un SMS ou alors une adresse mail. Ils refusent, je change de médecin. Moi, je veux trouver un médecin qui m'accepte tel que je suis et qui me permette d'être autonome vis-à-vis de ma prise de rendez-vous avec lui. Alors maintenant, vous avez Doctolib ou tout ça, des sites comme ça avec des croix. Donc, les entendants aussi, ils ont cette possibilité-là. Ça, c'est très bien.
Emmanuel Laborie, vous êtes issu d'une famille de médecins. Et j'imagine qu'à un moment donné dans votre vie, on va vous parler de l'implant cochléaire. Quelle a été votre position, vous, cette quête identitaire? En tout cas, pour moi, entendante, je trouve ça très complexe. Le jeune implanté est sourd pour... Oui, pour les entendants, mais entendant pour les sourds. C'est quand même un entre-deux terrible.
C'est vrai que c'est une question... Moi, j'aimerais qu'un jour, je rêve qu'on ne me pose plus cette question. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours ce regard qui revient vers nous sur la surdité. Que je peux comprendre, hein. C'est compliqué, ce sujet. C'est très délicat. Moi, je préférerais que le sourd implanté réponde lui-même. Moi, je ne suis pas implantée, donc je ne peux pas parler de ça. Je ne l'ai pas vécu. Je n'ai pas de ressenti vis-à-vis de ça. Moi, ce qui me choque le plus, dans tout ça, c'est la position politique. Dire que les médecins, les laboratoires, la sécurité sociale également, sont vraiment totalement à fond pour ces procédures. Tout est mis en place pour ça. Tout.
Dès la naissance.
Les remboursements, tout. Même des parents qui refusent, ça, on leur met la pression, on les culpabilise. Donc c'est un lobbying. Moi, je n'ai jamais accepté. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. C'est tout. Point. Après, que des parents fassent le choix vis-à-vis de leur enfant, qu'il soit grand ou petit, c'est leur choix. Mais ce n'est pas un choix qu'ils font tout seuls. C'est un choix qui est fait un peu sous pression quand même. Voilà, ça c'est ce que je pense, c'est mon point de vue.
Vous êtes révélée, Emmanuelle Laborie, au grand public en 1993, quand vous recevez le Molière de la révélation théâtrale pour votre rôle dans Les Enfants du silence de Marc Medoff. Vous recevez le trophée des mains d'Edwige Feuillère et Stéphane Frey, c'est loin dans le temps, mais ça reste. Comment apprenez-vous que vous êtes nominée puis sélectionnée?
Au moment de la soirée, hein. Mais il y avait un interprète qui était présent. Oui, il y a eu un petit décalage, bien sûr. Hein. Bon, il y a toujours un temps de décalage pour l'interprète qui va traduire le message, le temps qu'elle entende et qu'elle le signe. Donc là, c'était à l'époque, c'était Jean Dalric, hein, qui était le metteur en scène de ce spectacle, Les Enfants du silence, qui s'est tourné vers moi et m'a dit « c'est toi !» Puis là, j'ai regardé « mais attends, l'interprète n'a pas fini !» Donc voilà, il y a eu un petit temps de décalage comme ça. Je me suis dit, il faut que j'y aille. Et je ne voulais surtout pas tomber. Je savais que c'était vraiment très compliqué pour y aller avec ma grande robe et tout ça, mes talons, et je ne voulais surtout pas tomber. Et lorsque je suis arrivée sur la scène sans tomber, je me suis dit, ouf, déjà ça te fait. Et quand j'ai vu le monde derrière, devant moi, je me suis dit, oups. Et ce que je ne voulais pas, c'était pleurer, merci, au revoir. Non, j'essayais, j'avais quelque chose à dire, je voulais le dire. Je voulais absolument en profiter pour dire quelque chose. Et à ce moment-là, la situation d'Yvette était très, très difficile. À l'époque, c'était Jean-François Labouvrie qui était le directeur d'IVT et qui me sollicitait beaucoup parce que la situation était tellement périlleuse qu'IVT risquait de fermer. En fait, IVT était chassé du château de Vincennes puisque ça allait devenir un musée et donc IVT devait quitter ce lieu. Et il fallait absolument résoudre ce problème et moi je voulais absolument en parler. Je ne pouvais pas ne pas en parler parce que si IVT fermait, on revenait en arrière. Donc, j'ai pris la parole, j'ai passé mon message, et à ce moment-là, c'était le ministre de la Culture, c'était monsieur Jacques Toubon, qui, à la fin de la soirée, est venu me voir. Il m'a dit, je vais venir vous voir, on va se prendre rendez-vous. Donc, j'ai dit à Jean-François Labouvrie, j'ai dit, c'est bon, on va pouvoir y aller ensemble. Et donc, nous sommes rendus à ce rendez-vous ensemble. De toute façon, je l'ai accompagné à tous les rendez-vous, hein, tous les rendez-vous politiques, jusqu'à ce que l'on trouve ce nouveau lieu qui est donc Chaptal, dans le 9e arrondissement à Paris. Mais moi, je ne voulais pas être directrice à ce moment-là. Je ne voulais pas. Mais j'étais prise au piège de la même façon. Une fois de plus, une fois que j'ai plongé dedans, pof, prise au piège.
Et alors, je reviens à ce moment qui vous arrive à vous toute seule. Pour le grand public, c'est la première fois quand même que sur scène... une comédienne remercie en langue des signes. Ça vous porte à ce moment-là, vous dites, vous avez la parole et c'est peut-être une première tribune dans ce combat pour la reconnaissance de votre langue.
Oui. Oui. Et puis, je me rappelle, lorsque je demandais au public de faire ce signe très simple avec moi. Ça veut dire ensemble, donc l'union des deux mondes. Donc voilà, c'est le signe de l'union.
On rassemble les deux mains comme ça?
Oui. Vous savez, c'est comme les maillons
d'une
chaîne, voilà.
Vous avez
et là, je voyais que le public, rien du tout. Je me suis dit, là, je vois rien. Mon message, il est passé. Allô? Je suis toute seule à avoir des larmes aux yeux. Je suis la seule à pleurer. Le message ne passe pas. Puis je me suis dit, aïe, oui. Toujours pareil, décalage avec l'interprète. Et là, d'un seul coup, je les vois faire tous le signe. Donc, ce signe de l'union. Et là, je me suis dit, ouf, ça y est, ce moment est partagé. Donc, j'ai rajouté après un tout petit mot. Voilà, je vous aime. Mais c'était très timide, hein, avec ma petite voix. Mais j'étais submergée par l'émotion, bien sûr.
Comment vous retrouvez-vous projeté dans le rôle de Sarah dans Les Enfants du Silence ? Vous n'avez que 19 ans et vous n'avez joué pour l'instant qu'en tant que comédienne amateur. Jean Delric, qui est metteur en scène, vous choisit. Et alors, à cette place-là, vous ne doutez pas, j'imagine. Et lui non plus, alors que beaucoup essaient de l'en dissuader à ce moment-là ?
Oh non, non, non. En fait, il avait organisé un casting. Donc, il y avait eu plusieurs personnes qui s'étaient présentées, dont moi. La rencontre avec Jean Delric a été très importante pour moi parce que il m'a appris ce métier, en fait. Hein, parce que Les Enfants du Silence, Jean Delric l'avait déjà joué auparavant. Et moi, je l'avais vu. J'avais 10 ans lorsqu'ils ont joué ce spectacle. Hein. Je l'ai vu, Les Enfants du Silence, je l'ai vu. Et ça m'avait marqué. Je me dis, non, c'est trop puissant, c'est trop fort. Moi, c'était juste impossible. Donc j'ai travaillé moi-même et sur moi aussi. Donc j'ai plongé complètement dans ce personnage. Et le jour de la première, il y avait toute ma famille. Et c'est là où j'ai appris ce que c'est, après avoir joué le spectacle, de voir les applaudissements, la satisfaction du public. Et après, là, je me suis dit non. Non, 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 pipo. Mais j'étais sévère avec moi-même. Hein. J'étais très exigeante. Non, j'étais pas contente. Là, je me disais, non, ça, c'est du pipo, là. C'est pour me faire plaisir.
Les Enfants du Silence racontent quoi ? C'est le défi de deux mondes, c'est ça ?
Oui, c'est l'histoire qui se déroule dans un établissement, dans un internat. Puis il y a un nouveau enseignant qui arrive pour faire de l'orthophonie, mais il connaît la langue des signes, ce qui est totalement exceptionnel. Et puis dans l'école, dans cet établissement, il y a des élèves sourds et puis il y en a une qui fait le ménage. Elle n'est pas élève, elle a fait sa scolarité dans l'école, mais une fois sortie de la scolarité, elle fait le ménage et c'est la seule qui refuse de parler. Mais totalement, elle fait tout en langue des signes, point. Et là, il y a une histoire d'amour entre cette jeune femme et le professeur. Au départ, il y a respect mutuel. Et puis, comme souvent dans les histoires d'amour, il y en a toujours un qui veut changer l'autre, quand même, même si c'est inconscient. Et donc, en fait, c'est l'orthophoniste qui pousse Sarah à parler, et elle pète un câble. Et parce qu'elle sent qu'il essaye de la changer, et elle ne veut pas. C'est un spectacle américain écrit par Mark Medoff. Et... il a été joué à travers le monde, hein, ce texte. Hein. Il a été joué par Marley Matlin, il a été joué par Chantal Yenel, etc., etc. Donc moi, j'ai rencontré toutes les Sarahs. Et il y a même une comédienne entendante qui l'a joué, hein, ce personnage, notamment à la Comédie française. C'est un texte qui est encore vivant, actuel. Même si pour nous, la communauté sourde, on se dit « Oh, on a toujours le même texte, toujours la même chose, on sait par cœur, on sait de quoi ils vont parler et tout. » Mais il n'empêche que c'est encore actuel.
Pour vous, à ce moment-là, le théâtre, c'est quoi ? Ça devient un travail, après cette pièce de théâtre, un échappatoire, ou au contraire, une sorte de paradis ?
Oh. C'est vrai que sur scène... j'ai l'impression que je vis. Voilà, c'est tripal, c'est là, ça me tient là, ça me parle, ça me donne de l'énergie. Ce que j'aime aussi, bon, bien sûr, tout va dépendre des spectacles, hein, mais ce que j'aime aussi, c'est le période de travail d'adaptation. J'adore que lorsqu'on a le texte en français et qu'il faut après l'adapter en langue des signes. C'est ce fameux pont que l'on passe d'une langue vers une autre. Et ça, j'adore. Je ne dis pas que c'est facile, hein, parce qu'il y arrive des moments où on a vraiment des blocages, où il faut vraiment trouver la solution. Donc c'est vraiment une longue réflexion pour trouver la forme qui va correspondre. Mais je me rappelle... à un moment, c'est quand j'ai eu des enfants, donc j'étais jeune mère, je me suis rendu compte que j'avais plus le trac, que sur scène, c'est comme si je me regardais jouer. Et je me suis dit, oh, mais c'est horrible ça. Je me suis dit, Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis d'habitude, moi, quand je suis sur scène, je suis à plein, à fond dedans. Là, si je me regarde sur scène, ça ne va pas, il y a quelque chose. Et ce n'était pas du tout confortable pour moi, du tout, du tout. Je me dis, si c'est comme ça, moi, j'arrête tout, quoi. Ça veut dire que c'est mort. Et puis, non, ça m'est revenu. Mais ça t'est une période. Voilà, un passage. Mais j'étais dans l'allaitement. Je crois que j'étais à ce moment-là avec mes enfants. Mon esprit n'était pas disponible. Donc j'étais plutôt tiraillée entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Mais voilà, totalement humain, quoi.
Vous avez eu l'impression, par vos expériences de vie, d'avoir vieilli en accéléré ? Comme pour combler le temps perdu de ces premières années où la communication était compliquée ?
J'avais jamais pensé à ça. C'est vrai que dans ma vie, les choses se sont enchaînées et tout le temps est passé très très vite. Et quelquefois, j'ai parfois envie d'arrêter le temps, qu'il se suspende un petit peu. Oh, respirer. J'en ai besoin. Mais parfois, la vie nous fait courir hein, quand même, hein, pour rattraper le temps, oui. C'est insupportable.
Merci beaucoup.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Johanna Bedeau avec Emmanuel Laborie. À voix nue, interprète Corinne Gache, réalisation Angélique Thibault, prise de son Yann Fressy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.